Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Réussir au Maroc quand on est une femme, c'est possible. Le pays multiplie les exemples ces dernières années et un effort tout particulier est porté sur la formation universitaire. C'est ce que nous verrons avec la responsable des partenariats à l'Université internationale de Rabat. Un autre effort est porté par des initiatives locales d'aide aux jeunes créateurs d'entreprises. Même si être une femme n'est pas le critère premier, Espace Bidaya encourage l'entrepreneuriat féminin. Enfin, les grandes entreprises internationales participent à leur manière à cette émancipation féminine en nommant des femmes à la tête de leurs bureaux marocains, comme l'a fait récemment le cabinet de conseil aux entreprises Wavestone. Les femmes dans l'univers du travail au Maroc, c'est le thème d'Orient Hebdo ce samedi. Salma Benhadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en informatique et en mathématiques et vous dirigez le bureau marocain de Wavestone. C'est un important cabinet de conseil indépendant en Europe. Est-ce un challenge particulier pour une femme au Maroc de diriger un tel établissement ?
Oui, tout à fait, c'est un challenge, alors je ne sais pas si c'est au Maroc ou partout pareil, mais en tout cas c'est un challenge pour une femme d'accéder à un poste de direction et de piloter un bureau ou une entreprise ou une start-up, parce qu'on est en permanence confronté à des obstacles dans notre quotidien.
Quel genre d'obstacles ?
Bah, plusieurs obstacles, le premier en tout cas dans ma région, c'est la culture. Dans la Méditerranée, la culture fait que on a plus naturellement, on donne accès à un certain nombre de postes à des hommes et pas à des femmes. Mais il n'y a pas que la culture, il y a aussi des discriminations qu'on peut avoir dans les entreprises, telles que la parité dans les salaires, l'analyse de la performance qui se fait pas de la même façon quand il s'agit d'un homme ou d'une femme, l'accès à des postes de responsabilité ou de management. Je ne parle pas du recrutement aussi, en fait, l'accès au poste lui-même qui se fait pas de la même façon quand on analyse un CV d'homme ou un CV de femme.
Alors justement, vous dirigez un bureau et vous avez affaire, dans le cadre de votre travail, à beaucoup de chefs d'entreprise hommes. Est-ce que c'est parfois un problème ?
Alors, non, ce n'est pas un problème. En fait, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, parce que très honnêtement, quand je me suis installée au Maroc, je pensais sincèrement que ça allait être un frein, que ça allait être un point bloquant. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est peut-être parce que je suis chanceuse, mais tous les hommes chefs d'entreprise que j'ai croisés, ce sont plutôt des hommes qui ont été peut-être pour l'égalité femmes-hommes et donc qui m'ont encouragée, aidée à chaque fois qu'ils pouvaient.
Alors justement, vous parlez de l'égalité femmes-hommes, vous êtes très engagée dans ce domaine. Et qu'est-ce que vous préconisez pour les jeunes filles pour qu'elles puissent accéder à des postes, notamment dans certains métiers qui sont plutôt des métiers d'hommes ?
Qu'elles soient audacieuses. Le premier point, c'est qu'elles soient audacieuses, qu'elles n'aient peur de rien, qu'elles se lancent. Vraiment, pour moi, c'est le premier point. Ensuite, qu'elles cherchent des rôles modèles, c'est très important. Qu'elles cherchent des femmes qui vont les inspirer et qui vont les aider finalement à être pugnaces et à poursuivre ce qu'elles souhaitent faire. Et enfin, qu'elles fassent partie de cercles ou de réseaux. Ce sont des réseaux qui aident énormément parce qu'on rencontre un certain nombre de personnes, parce qu'on partage des expériences, parce qu'on voit ce que vivent d'autres. Et du coup, ça nous aide énormément dans notre quotidien pour évoluer dans notre carrière.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au départ dans la vie de ces jeunes femmes, à l'école ou à la maison, où déjà un certain nombre de stéréotypes se développent et les incitent ou pas à faire telle ou telle carrière ?
Bien sûr, en fait, ça démarre dès le plus jeune âge, à la maison, avec les parents. Quand on achète des Legos de construction pour garçons et qu'on achète des poupées pour filles, bah, on démarre déjà ce travail-là. Par ailleurs, il y a aussi le fait qu'on n'arrête pas de dire les mathématiques ou les sciences ne sont pas faites pour les femmes ou les filles. Donc oui, ça démarre dès l'éducation avec les parents, mais aussi avec les enseignants à l'école. On a énormément de stéréotypes, malheureusement, qui font que les filles perdent confiance et donc n'osent pas forcément aller vers des filières, je n'aime pas dire ça, mais des filières qui sont vues comme étant des filières masculines.
On a l'impression que le Maroc aujourd'hui est en pleine évolution et que la situation des femmes et des jeunes filles s'améliore. Est-ce que c'est votre impression ?
Je suis une fille ou une femme optimiste, donc j'ai envie d'y croire. Oui, on en voit de plus en plus. Maintenant, ce n'est jamais assez et l'égalité, c'est un combat qu'on va devoir mener encore pour un certain temps.
Le combat pour l'égalité homme-femme est à mener chaque jour, nous dit Salma Benani, la patronne du cabinet de conseil européen Wavestone. Qu'en pense Sarah Diouri, responsable de la plateforme Bidaya, un incubateur de jeunes entreprises installé à Casablanca, dont elle nous détaille le fonctionnement?
Alors, Bidaya, c'est un incubateur d'entreprises qui ont un impact social ou environnemental. L'ambition de cet incubateur, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au Maroc, mais aussi d'accompagner des entrepreneurs qui ont déjà un projet dans la concrétisation donc, de leur entreprise à impact social ou environnemental.
Qu'est-ce que vous leur proposez exactement comme accompagnement?
Alors, on a deux programmes d'accompagnement distincts, le Bidaya Incube et Bidaya Funds. Bidaya Incube contient une série de formations, workshops qui adressent différents sujets de création d'entreprise. Donc, ça peut aller du marketing, du positionnement, de la stratégie, au business model, prototypage, etc. Donc, l'idée, c'est d'accompagner de manière transversale ces projets pendant un an. Le programme Bidaya Funds, lui, est plus concentré sur l'accès au financement. Donc, il va s'adresser à des entrepreneurs qui ont déjà une preuve de concept et les formations vont plus se concentrer sur l'accès au financement, la construction du business plan financier. Et à la fin de cet accompagnement qui est plus court, qui dure 3 mois, on les fait pitcher, donc présenter leur projet devant une quinzaine d'investisseurs. Et les meilleurs d'entre eux tirent des fonds de Bidaya, donc qui sont sous forme de prêts d'honneur ou subventions.
Mais à qui vous adressez-vous? Ce sont plutôt des jeunes entrepreneurs, des hommes, des femmes?
Alors, on n'a pas de critères discriminants sur l'âge ou sur le genre. L'idée, c'est la qualité du projet et la qualité du porteur de projet ou de la porteuse de projet. Donc, on s'adresse à des gens qui sont créatifs, donc qui ont une idée d'innovation sociale ou innovation environnementale, des gens qui ont une vision business. Donc, l'idée, c'est pas de se retrouver dans le côté associatif ou humanitaire, c'est vraiment de créer des business, des modèles économiques viables, mais qui répondent à des problématiques sociales ou environnementales.
Justement, Espace Bidaya appartient à un réseau beaucoup plus vaste, international, d'incubateurs. Ils ont choisi une femme, donc au Maroc. Est-ce que c'est un choix délibéré?
C'est à eux qu'il faudra demander. Je ne sais pas s'il y a eu un critère par rapport à ça, mais peut-être que dans la réalité, ce genre de poste donc, qui est sur l'entrepreneuriat à fort impact, peut-être que ça a attiré plus de candidates que de candidats. Ensuite, je pense qu'il y a certaines compétences managériales qui sont nécessaires pour ce poste et que j'avais pu développer. Donc, j'imagine que c'est ce qui a joué. Je pense que c'est plus une attitude à développer. C'est plus, en fait, la personne qui est donc dans ce poste de management ou de direction qui doit, en fait, faire fi de cet obstacle ou de cette irrégularité, puisque c'est pas très commun d'avoir des femmes dans les positions de leadership, pour mener à bien sa mission, qui est dans mon cas celle de diriger l'incubateur et accompagner un maximum d'entrepreneurs.
Justement, est-ce que vous sentez que dans le secteur dans lequel vous évoluez, avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes gens et de jeunes filles qui veulent réussir un projet, finalement, être un homme ou une femme, ça passe au second plan?
Oui, je pense que sur la nature des projets portés ou sur la nature des activités, c'est pas un élément qui vient contraindre mes activités au quotidien ou qui vient auquel je pense constamment. Je fais mon travail indépendamment de ces considérations. Après, c'est vrai que je dirais qu'en tant que femme, on est plus exposée dans les deux extrêmes du spectre, on va dire. C'est-à-dire que à la fois il y a plus de contraintes, mais parfois aussi il y a plus d'opportunités. Il faut vraiment assumer son rôle et avoir confiance en soi pour défendre les missions qu'on doit faire au quotidien.
Sarah Diouri, vous militez également dans une organisation informelle pour promouvoir le leadership des femmes au Maroc. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution de la société marocaine aujourd'hui dans ce domaine ?
Alors, c'est certes, cette association elle s'appelle LININ. C'est une association qui a été pas encore constituée juridiquement, mais qui défend, en fait, ou qui promeut le leadership féminin. Et depuis que je suis dans ce groupe, je me rends compte qu'il y a énormément de choses encore à faire pour que les plus jeunes générations au Maroc puissent se projeter dans des role models, comme on dit, et envisager des carrières qu'elles n'auraient peut-être pas eu l'occasion d'envisager auparavant. Donc je pense qu'il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire pour démocratiser cette idée qu'on peut être à la fois une femme marocaine, musulmane, et être ambitieuse. Donc il y a tout un grand pan de sensibilisation qui est encore à faire, mais ça se développe, je dirais. Je vois vraiment une... Enfin, j'ai grandi au Maroc et je dirais vraiment qu'il y a une évolution sur les 10 dernières années. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur la partie sensibilisation. Ensuite, sur la partie compétences, vraiment, les skills, ça se développe, mais il y a encore beaucoup de travail qui peut être fait, notamment sur la prise de parole en public, la confiance en soi, toute une série de ce qu'on appelle les soft skills qui pourrait venir compléter les compétences des jeunes filles au Maroc, qui, je rappelle, sont souvent les meilleures de leur classe et les meilleures dans tout ce qui est compétences techniques. Donc encore à développer toute la partie compétences interhumaines, confiance en soi, etc. Et c'est ce sur quoi on travaille avec LININ.
Sarah Dury, merci.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Les compétences les meilleures, dispensées par un système universitaire très tourné vers l'international, comme nous l'explique Hakima Fassifiri, directrice des relations internationales et des partenariats à l'Université internationale de Rabat.
Alors au Maroc, tous les bacheliers ont parfaitement la liberté de choisir les filières de formation qu'ils souhaitent. Il y a, je tiens à le rappeler, quand même une égalité en droit dans ce domaine-là et de ce point de vue-là. Bon, chaque jeune a tout à fait le droit de présenter sa candidature dans l'université, la filière de son choix. Ceci étant dit, il y a des universités à accès plus régulées que d'autres, avec des critères d'admission et de sélection qui peuvent être très importants. Donc, il y a des universités, des cursus au Maroc, comme partout d'ailleurs, je pense, des niches qui sont vraiment d'excellence au sens où il y a une sélection très forte à l'entrée qui se fait. Dans l'université dans laquelle donc je travaille comme directrice des relations internationales et dans laquelle j'enseigne également une matière de droit qui est le droit de la famille, il y a des examens, des concours d'entrée, des concours d'admission, des bacheliers, bien sûr avec aussi la possibilité d'intégrer sur titre, mais ça c'est un autre parcours et une autre voie d'admission. Donc les concours d'admission, il faut les passer, il faut les réussir pour pouvoir intégrer l'Université internationale de Rabat dans toutes ses écoles et dans toutes ses facultés et les cursus qu'elle propose.
Au niveau de la représentation, y a-t-il plus de femmes qui se présentent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs beaucoup?
Il y en a énormément. Je dois vous dire que depuis la création de l'Université internationale de Rabat, nous avons une parité presque exemplaire, je dirais, qui peut en étonner plus d'un, parce que bon, il y a toujours des stéréotypes qui sont dans l'esprit des gens, que ce soit au niveau national, régional ou même à l'international. Donc, je vois qu'il y a beaucoup, pas mal de personnes qui manifestent des signes de surprise lorsqu'ils voient ça, notamment lorsqu'ils voient aussi qu'il y a autant de filles que de garçons, voire pour certaines promotions, il y a eu plus de filles que de garçons dans les filières d'ingénierie, prise au sens le plus large, c'est-à-dire j'inclus dedans toutes les filières d'ingénierie que nous proposons à l'université, c'est-à-dire l'ingénierie aéronautique, ce sont des cycles de 5 ans d'ingénieurs au Maroc, l'ingénierie automobile, l'informatique, etc. Et donc les filles sont bien là, elles ont une très grande ambition, c'est une grande chance et je pense que le fait d'avoir déjà choisi d'étudier dans une université dans laquelle il faut passer par des concours d'admission, des concours pour entrer, ça dénote déjà d'une certaine motivation, une certaine ambition de la part de ces filles-là. Parce que ce n'est pas facile de se dire, je candidate, il y a un concours, il faut que je le passe, il faut que je le réussisse, alors qu'ils viennent juste d'avoir leur bac il y a quelques semaines ou mois.
Et beaucoup de confiance en soi aussi.
Absolument, beaucoup de confiance en soi. Et évidemment, alors soyons lucides, bien sûr que c'est une réalité, c'est une chance que ces jeunes ont, mais elle n'est pas donnée à tous les jeunes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, d'avoir cette confiance en soi. Il faut la leur insuffler aussi, à ceux qui n'ont pas ça. Il faut aller les chercher et leur donner envie de croire en eux-mêmes et de se dire « d'autres l'ont fait avant moi, je peux le faire aussi ». Et de leur permettre cette petite fenêtre sur le rêve, parce que c'est notre porte de sortie, je dirais, pour le pays et pour son développement.
Votre université internationale de Rabat a signé de nombreux partenariats avec d'autres universités à travers le monde, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique latine, en Asie. Est-ce que les jeunes filles marocaines qui sont dans vos cursus vont facilement s'expatrier un an ou deux, par exemple, à Bogota ou à Prague ?
Alors oui, je dois vous dire que oui, je le dis avec un sourire, parce que nos jeunes ont très envie tous de partir vivre leur semestre de mobilité comme tous les jeunes dans le monde aujourd'hui. Vous savez que ça a le vent en poupe, cette idée d'échange étudiant et de Erasmus, etc. Et ben, nos jeunes sont comme tous les autres jeunes, je veux dire, garçons et filles ont très envie de vivre cette expérience, et nous efforçons, nous faisons vraiment d'énormes efforts pour leur permettre d'avoir le maximum de places pour aller en mobilité, le maximum de partenaires sur les 5 continents, et de leur permettre là encore de rêver et de se dire je vais aller vivre seule, loin des miens, une expérience certainement qui change la vie. Et les filles sont loties comme les garçons de ce point de vue-là. Elles ont très envie de vivre cette expérience, bien sûr. Encore plus parce que ce sont des filles et qu'elles ont cette envie d'aller voler de leurs propres ailes et d'être libres, c'est-à-dire loin des parents, loin de tout le carcan, hein, familial, etc. Donc elles ont cette envie, ah oui, absolument.
Alors vous avez récemment contribué, vous, à titre personnel, à un ouvrage sur l'héritage des femmes au Maroc. C'est un débat qui agite aussi d'autres pays de la région, notamment la Tunisie, en ce moment, on le sait. Voyez-vous la situation sociale des femmes évoluer au Maroc aujourd'hui, et de quelle façon ?
La situation des femmes au Maroc est évolutive. On est dans un parcours, on est sur un chemin, et c'est quelque chose qui est inéluctable. Ça ne peut pas stagner. On est en train d'avancer. Je ne dis pas que c'est facile, en revanche. C'est très difficile dans un contexte actuel qui est un contexte vraiment avec le regain des conservatismes de nouveau, pas seulement au Maroc. Partout, les vents du conservatisme soufflent, même sur les États-Unis. Ils sont partout. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement favorable à l'émancipation de la femme. On le sait bien, puisqu'il y a derrière ce conservatisme, bien souvent, l'élément patriarcal qui est très présent. Donc dans ce contexte-là, on peut imaginer qu'un pays comme le Maroc, bon, ben, il va avoir du mal, et les femmes marocaines vont avoir du mal à faire bouger les lignes. Mais en fait, les lignes sont en train de bouger. C'est très difficile, le contexte n'aide pas vraiment, mais elles sont là. Le Maroc est un pays parmi ceux dans le monde, je pense, où il y a le plus d'ONG et d'associatifs, dans tous les domaines d'ailleurs, les enfants de la rue, plein de choses, mais l'associatif féminin. Donc, plein de choses sont faites. Beaucoup d'associations travaillent sur l'émancipation de la femme, les droits des femmes, l'autonomisation économique des femmes, la violence à l'encontre des femmes, etc. La lutte contre cette violence-là, et j'en passe. Enfin, vous pouvez penser que je suis optimiste, mais je le suis peut-être, et il faut l'être. On ne peut pas être autrement que cela pour pouvoir avancer. Il y a des signes qui sont très encourageants de la part de la société civile, de la part des citoyens. Il y a une demande qui est très forte, ça crie vraiment, et les réseaux sociaux sont une plateforme où vous voyez à quel point il y a une demande en termes de liberté, en général, individuelle, je veux dire, en termes aussi d'autonomisation de la femme, de sa perception, de sa place dans l'espace professionnel et au travail, etc., etc. Donc oui, les choses sont appelées à changer. Si ça prend plus de temps parce que le contexte est difficile, eh bien, ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Ça prendra plus de temps, mais on y va.
Merci.
Merci à vous.
Hakima Fassifieri, Sarah Diouri, Salma Benani, trois exemples de réussite féminine au Maroc, mis en avant par l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe 47 pays de part et d'autre de la Méditerranée. Salma Benani bénéficie également du label « Génération de leaders » de cette même UPM. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. Vous pouvez la réécouter sur notre site www.rfi.fr ou la podcaster sur notre appli Pure Radio. Tout de suite, un nouveau journal.